Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelles sont les normes d'installation d'une station-service ou lieu de vente des produits pétroliers? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec l'ingénieur Pepito Sakasaka, expert en sciences et techniques de pétrole et du gaz. Ingénieur Pepito, bonjour.
Bonjour, Okapi Service.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Polydor Bansunga à la mise en onde, Tati Mapugo assure la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination, au micro Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Prolifération anarchique des stations-service et dépôts de vente des produits pétroliers à Kinshasa. Ces endroits où les automobilistes peuvent se ravitailler en essence fonctionnent à proximité des habitations, des écoles, des hôpitaux et autres. D'après les experts, cela constitue un danger permanent pour la population. Quelles sont les normes environnementales à respecter avant d'installer une station ou dépôt de vente des produits pétroliers? On en parle dans cette émission avec l'ingénieur Pepito Sakasaka, expert en sciences et techniques du pétrole et du gaz. Ingénieur Pepito, encore une fois, bonjour.
Bonjour au Capi Service.
Bien, nous parlons des normes d'installation d'une station-service. D'abord, aidez-nous à comprendre ce que c'est une station-service.
Voilà, c'est intéressant d'expliquer ces concepts très techniques. Hein, et une station-service est une installation des ventes et des commercialisations de produits pétroliers. On peut retrouver aussi certaines activités connexes. On peut constater qu'il y a des banques, il y a des services pneumatiques, il y a des boutiques, ainsi de suite. Donc, en résumé, une station-service, c'est là où on peut vendre le carburant. Et les dépôts pétroliers, c'est une installation d'entreposage de produits pétroliers. Donc, où on peut stocker momentané, et voilà, et peut-être à la suite qu'on pourra vendre.
Bien, à Kinshasa, on assiste ces derniers temps à une prolifération anarchique des lieux de vente des produits pétroliers. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat.
Effectivement, on peut le constater. Hein, dans tout le coin et recoin de la capitale, il y a des stations un peu partout. Même dans des milieux où on pouvait estimer que ce sont des milieux reculés, maintenant là, il y a des stations, il y a même des dépôts pétroliers. Les constats est fait par tous. Mais c'est seulement, il y a deux points à encourager et puis il y a deux points à condamner. La prolifération nous produit des effets. Il y a les soucis de répondre à un besoin énergétique. Vous êtes sans ignorer que la RDC a vraiment ses besoins énergétiques. Les gens ont besoin d'avoir le carburant. C'est un besoin. Il faut combler ces vides. C'est pourquoi il y a cette prolifération. Mais de notre côté, il y a aussi des conséquences. Des effets sur l'environnement. Alors, ce sont des choses à condamner. Et puis, il y a des éléments que nous avons évoqués tout à l'heure là, qui nous pousse à lever les temps et puis à interpeller l'autorité, à intervenir avant que le pire arrive.
Nous parlons des normes d'installation d'une station-service. Donc, le constat est que actuellement à Kinshasa, il y a des stations un peu partout, à proximité des habitations, des écoles, des hôpitaux et autres. Alors, dites-nous, ingénieur, quelles sont les normes à respecter avant d'installer une station-service?
Voilà, les normes sont pléthoriques. Les normes sont pléthoriques, mais nous pouvons résumer ceci. Avant d'installer une station en service, il faudrait d'abord passer par l'analyse du secteur. Analyser ces secteurs, cela veut dire quoi? Respecter la réglementation, respecter toutes les lois. Il y a une législation en la matière, la loi numéro 15/012 portant régime général des hydrocarbures. Il faut respecter les secteurs, comment ça évolue, respecter tout le cadre interministériel, ministère de l'économie, ministère de l'environnement, ministère des hydrocarbures, ainsi de suite. Il faudrait aussi analyser la demande au niveau de la zone d'implantation. On ne peut pas implanter n'importe où, n'importe comment. On doit analyser suffisamment si réellement la zone choisie répond à des besoins. Alors, donc, je disais, analyser la demande au niveau de la zone d'implantation. Et en tout dernier lieu, il faudrait aussi étudier la concurrence. Parce que là, c'est anormal de constater qu'après des avenues, il y a une station. Juste à côté, et sur Super Lemba, si je me trompe, vous verrez qu'il y a deux stations à côté. C'est anormal par rapport au principe. C'est anormal par rapport aux normes. Et là, ça biaise même cette réalité d'étude de la concurrence. Voilà un peu, en résumé, ce que nous pouvons dire. Alors, si je peux revenir sur l'analyse du secteur, je peux dire que c'est grave. C'est grave de constater, on installe une station-service là où la fréquentation est faible en termes de flux de circulation. Donc, les gens ne fréquentent pas les milieux, mais on constate qu'il y a une station-service. Je ne sais pas si c'est pour favoriser la contrebande ou c'est pour réellement servir la population. L'accessibilité. On installe une station-service là où il y a une certaine facilité, où une voiture, les gens peuvent facilement accéder. La disponibilité foncière. Comment on peut installer une station-service dans une parcelle d'autrui? C'est anormal. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace pour essayer un peu d'installer et puis de respecter tous les paramètres.
Et quel est le service qui octroie les autorisations d'installation des stations-service?
Bon, il y a d'abord le ministère des Hydrocarbures qui a les derniers mots en cette matière. Et le ministère des Hydrocarbures ne fonctionne pas seul. Et dans cette réalité des choses, il faudrait aussi un enregistrement de commerce. Certainement, c'est au niveau du ministère de l'économie. Il y a aussi le ministère de l'environnement qui dira un mot. Donc, mais le ministère de tutelle des hydrocarbures a pour rôle de tout superviser, comme ce qui est écrit dans l'article 113 de ces régimes de l'actuelle loi qu'on utilise dans le domaine, dans le secteur pétrolier de la RDC. Si je peux le lire, article 113 dit ceci. Tout détenteur d'une autorisation spécifique est tenu au respect des normes de qualité de produits, d'hygiène et de sécurité d'installation de biens et de personnes. Donc, cette législation en la matière nous permet un peu à mieux faire. Donc, à partir de ces ministères d'hydrocarbures, on peut avoir l'autorisation bien réglementer les secteurs. Il y a aussi les ministères d'urbanisme qui, à son niveau, doit octroyer le permis de construction.
Donc, est-ce qu'on peut comprendre par là que c'est le ministère des hydrocarbures qui octroie des autorisations sans respect des normes?
Non, le ministère des hydrocarbures est là pour chapeauter. C'est son secteur de prédilection. Mais le ministère des hydrocarbures ne fonctionne pas seul dans ce cadre ici. Parce qu'une installation comme une station-service, comme un dépôt pétrolier, c'est aussi des installations commerciales. Alors, on doit aussi associer d'autres ministères pour cette réalité des choses. Une station-service, une fois installée, c'est un équipement très dangereux et du point de vue urbanistique, on doit aussi respecter les normes. Donc, on doit consulter le ministère d'Habitat et puis avoir aussi leur avis favorable afin de procéder à cette installation. Donc, c'est un travail, ce sont des autorisations qui sont sollicitées au niveau de plusieurs ministères, mais c'est le ministère des Hydrocarbures qui chapeaute un peu ces secteurs.
Bien, et vous avez déploré tout à l'heure qu'à Lemba, il y a des stations qui sont côte à côte. Selon les normes, il n'est pas autorisé d'avoir deux stations qui se suivent.
Bon, juste en face, c'est grave de l'observer. Juste en face, donc il y a une station à gauche et l'autre à droite, c'est compliqué de l'expliquer du point de vue normes urbanistiques parce que on ne sait même pas respecter ce qu'on dit concurrence, on ne sait même pas respecter certaines mesures. Juste derrière, il y a des bars, il y a des terrasses, ainsi de suite. Donc voilà un peu ça, ça fait du mal. Et imaginez-vous s'il y a un problème, il y a deux stations à côté, et dès que l'autre a un problème, il y a incendie et tout. Imaginez-vous la suite. Donc, on a observé à notre niveau, nous trouvons que c'est les dangers permanents, c'est une bombe à retardement.
Mmh. Quelles sont les normes d'installation d'une station-service? On en parle aujourd'hui dans Capi Service. Des questions et préoccupations, eh bien, écrivez-nous à service@radiocapi.net ou bien postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Capi Service.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bien, nous avons en ligne Nestor Mwepu de Kananga et Théophile Lokake de Kinshasa. Nestor, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis bonjour à tous les nombreux auditeurs de la radio Okapi.
Bien, Nestor, la question est de savoir qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux normes d'installation d'une station-service.
Ok, comme je l'ai un peu posté dans les commentaires, moi je dirais d'abord que le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour déléguer soit un ministre du tutelle, pour qu'on fasse un peu, en quelque sorte, des attributions aux gens, aux tenanciers de ces services-là, de ces stations-là, de pétrole et aussi d'autres, afin qu'ils puissent un peu avoir un endroit où il n'y a pas une concentration de gens. Parce que ici à Canada, nous avons été victimes l'année dernière sur l'avenue Lusambo, il y a toute une ribambelle de stations. Il y a eu une station qui a pris feu et il y avait eu des dégâts matériels et aussi des dégâts humains. Et l'État vraiment devra songer à ça vraiment. Sinon, on risque d'assister aux différents incendies vraiment, ce qui n'est pas vraiment
Nestor,
bon.
Il y avait combien de stations, oui, sur cette rue-là?
Je vous ai dit qu'il y a une prolifération de stations. Il y a à peine 10 sur cette rue-là, sur cette même avenue-là. Et là, vraiment, j'avais préconisé à ce que le gouvernement puisse donner à ces gens-là un espace, ou bien il faut les obliger,
alors,
les
quand...
imposer à ce, oui, qu'ils puissent aller là où il n'y a pas une forte concentration de gens. Parce que sur la ville de Kananga, c'est tout le monde qui veut vraiment construire dans le cœur de la ville. Mais il y a bien des espaces qui sont vides juste là. Et d'où ces gens-là pouvaient aller remplir leur station là pour un peu éviter des différents incendies, comme je l'ai dit là.
Merci Nestor Mwepu de Kananga. Théophile Lokake, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Radio Capé et à tous les auditeurs de la Radio Capé, bonjour.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
Oui, je dis ceci, pour la construction des stations de vente et de prêt-à-porter est très dangereux dans nos vies de RDC. Le mal est qu'ils ont pris de toutes ces stations proches des hôpitaux, écoles et marchés. C'est pour garantir la sécurité de la population ou soit pour provoquer les dangers à la population congolaise. Le gouvernement congolais doit assumer sa responsabilité. Cette construction des stations doit être dans des places qui sont isolées ou soit loin de la ville pour garantir la sécurité de la population et éviter aussi les dangers. Une chose importante que je peux ajouter est que si le respect des normes de construction des stations ne s'applique pas en RDC, c'est parce que nos autorités aiment beaucoup l'argent. Une fois on lui corrompit le respect des normes de la construction, ne sera pas, s'il te plaît, une fois quoi, les normes de la construction sera passé, tu verras que non, il n'y aura pas de l'impact encore pour les normes de la construction. Nous devons changer nos mentalités pour un Congo nouveau et fort. Merci beaucoup.
Bien. Achille, vous êtes à Mikalaï, à quelques kilomètres de la ville de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, à 35 kilomètres de la ville, je l'ai dit.
D'accord, à 35 kilomètres de la ville de Kananga. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'installation des stations-service et dépôts de vente des produits pétroliers?
Je salue d'abord cette thématique du jour intéressante. Et le constat amer que je fais sur toutes nos villes, nos stations, services et dépôts de vente sont construites tout au long des artères. Les panneaux sont presque dans la rue. Hein. Vous allez constater que les panneaux de crise peut-être sont mis presque dans la rue, et cela constitue un grand danger pour la population locale qui est exposée au risque de la vie. Et puis, il n'y a pas longtemps, à Rwanda, en Angola, un camion a mis sa course dans une station service, et puis il y a eu des pertes en vie humaine, ce qui n'est pas du tout intéressant pour un gouvernement vraiment en place. Et puis, je suggérerais à l'État congolais d'interpeller tout le responsable de ce site avec un délai fixé afin de placer leur station dans des endroits isolés pour diminuer les risques de causés par cette pratique qui n'est pas du tout légale ou qui ne correspond pas vraiment aux normes de la loi. Alors ma question que je peux poser à l'invité est de savoir, au regard de la loi, parce que ceci intéresse peut-être le ministère des hydrocarbures, des cadastres, et pourquoi pas aussi des urbanismes et habitats.
Bien, merci Achille de Mikalaï à 35 km de Kananga. Bien, ingénieur Pépito, vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Il y a l'un des auditeurs a dit c'est à cause de la corruption qu'on assiste aujourd'hui à cette prolifération anarchique des stations et dépôts des produits pétroliers. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Bon, je dirais que la prolifération est normale, entre guillemets, des stations-service, vu le besoin qu'on a sur le plan énergétique. Même en Égypte, dans la capitale Caire, actuellement, les stations sont doublées, donc sont multipliées. C'est normal. Kinshasa a besoin de carburant pour suffisamment s'approvisionner. Mais seulement, ce qui dérange, c'est la manière dont ces stations-là sont implantées. C'est là où nous devons réfléchir. Bon, dire qu'il y a, ça prouve qu'il y a une certaine corruption ou quoi, je ne sais pas bien le démontrer, mais seulement, je reste technicien, je me dis qu'il y a des soucis. Le gouvernement a sa place et la population aussi a sa manière de voir les choses. Si quelqu'un vient acheter une parcelle pour implanter une station-service chez toi à la maison, mais c'est à toi de poser toutes les questions, si réellement il a toutes les autorisations. Et la population aussi doit à un certain moment collaborer avec ces installations-là. Quand ils viennent, donc ils ne viennent pas imposer les choses, mais ils viennent collaborer, bien qu'ils ont des normes, ils ont tous les documents. Donc il y a d'un côté notre ignorance aussi, étant que la population, nous ignorons de tout, et de notre côté aussi, le gouvernement doit suffisamment nous protéger, parce qu'il y a la loi, il y a les documents, il y a les structures étatiques qui devraient normalement répondre à toutes les questions pour éviter les pires. Parce que il y a l'année passée, en 2019, le 28 septembre, au niveau de Bonhomme, il y a eu un dépôt pétrolier qui a pris feu, et heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts en perte en vue humaine, mais il y a eu des dégâts matériels consistants. Donc ce sont des cas comme ça qui passent au moins, chaque année on a au moins un cas d'incendie d'une station, je sais pas moi, d'un dépôt pétrolier. Donc c'est quelque chose qui doit nous interpeller, qui doit pousser les autorités à être plus vigilants.
Et du côté de Brikin, il y a eu également une station, la station Okapi qui avait pris feu, et il y a quelques maisons aux alentours qui étaient également touchées.
Voilà, c'est ça le souci. Donc au moins chaque année, on a un cas ou deux hein, sur l'étendue de la République, alors que c'est là, ça doit vraiment nous interpeller, parce que quand une station-service brûle, imaginez-vous, c'est un investissement qui brûle, parce que c'est une installation commerciale, il y a des gens qui travaillent là-bas, et imaginez un peu les dégâts, et déjà nous sommes en train de déplorer le taux de chômage qui ne cesse d'agrandir. Donc le gouvernement, la population, nous devons travailler ensemble pour essayer un peu de soulager tant soit peu cette réalité des choses.
Bien, alors si on comprend bien, une station-service doit être loin des habitations.
Bon, il y a des normes qu'il faudrait respecter, je l'ai dit tantôt, il y a des normes qu'il faudrait respecter. Parmi ces normes-là, il y a aussi cette distanciation que la station devrait respecter, parce que la station, pourquoi? Elle détermine une zone à texte, une zone explosive, au travers le vapeur qui se volatilise lors de chargement, quand on essaie un peu de remplir son moteur, il y a des vapeurs qui se volatilisent. Ces vapeurs-là créent une certaine zone explosive. Donc, cette zone-là est vulnérable à des sources de chaleur. Donc, il suffit qu'il y ait une source de chaleur, la zone-là peut facilement s'enflammer. Imaginez-vous, à côté d'une station, il y a, je ne sais pas moi, un atelier de soudure où il n'y a pas assez de sécurité. Donc, le mal peut intervenir à tout moment. Donc, voilà un peu, on souhaite que ces stations-là soient au niveau des portes d'entrée. Selon les urbanistes, ils souhaitent que les stations-service soient au niveau des portes d'entrée de la ville. Par exemple, au niveau de Maluku, des endroits un peu reculés du centre-ville. Là, c'est pour de grosses stations, des stations où il y a plusieurs pompes, il y a plusieurs installations. Mais pour des petites stations, on peut retrouver une station à une pompe, à deux pompes. Là, on peut le retrouver dans certains milieux, dans certains parkings de la ville du centre-ville. Mais pour une grosse station, comme on peut encore l'observer à Kinshasa, là, il faut encore revoir, le plan urbanistique de Kinshasa en 2050. Il faut tenir compte de ça, parce que c'est une installation à observer de près.
Bien, nous allons accueillir Frédéric de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux stations-services qui prolifèrent à Kinshasa?
Oui, à mon humble avis, je m'en touche juste d'abord donner le prolétor à l'État congolais. Et vous verrez dans notre pays bien organisé, vous verrez que les stations de services pétrolières sont construites selon la dispensation, parce que ça pourrait créer des risques sur la population locale. Vous verrez, moi-même, je te dis quand j'étais dans la ville de Kananga, il y avait une station de services pétrolières qui s'est brûlée comme ça, il y avait encore des risques pour les vies humaines. Et en plus, vous verrez ici, à Kim, si vous voulez voir, le voir où il est, il y a des stations qui se suivent. Et c'est un risque pour quoi? Pour notre environnement. Et en plus, il faut que notre État congolais prenne des choses et prenne des mesures strictes afin d'épargner sa population à la place des vies humaines.
Bien, merci Frédéric de Kinshasa. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jourdi, bonjour également à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire vraiment, par rapport aux stations, services et dépôts des produits pétroliers qui prolifèrent à Kinshasa? Je ne sais pas si à Lubumbashi c'est le même constat.
Oui, j'allais en venir. Vraiment, le constat est amer. Il faut le dire, c'est le cas de le dire. Parce que actuellement, les stations pullulent comme des champignons. Ça, il faut le dire et m'atterrer là-dessus. Ça veut dire que sur chaque artère, il faut vraiment, sur chaque grande artère, vous allez apercevoir ces stations-là. Et je me dis, c'est juste côte à côte avec les institutions scolaires. Alors, je me pose la question. Que fait le ministère ayant en charge l'environnement? Je pense que les deux ministères devraient travailler concomitamment pour tracer au clair cette situation. Je pense que dernièrement, le ministre de l'Environnement était ici. Je pense qu'il a vu tout ce qui se passe en province. Il revenait à lui de travailler, de parler à son collègue qui a la charge de spa hydrocarbure pour ne plus que vraiment mettre de l'ordre. Sinon, tout le monde cherche à être, je ne sais pas, acteur dans ce domaine. Et je me demande où est-ce que nous sommes en train de partir.
Jérémy, il semble que le secteur des hydrocarbures paye bien. Donc quand vous investissez là-bas, vous faites beaucoup de bénéfices.
Ah, oui, mais ça veut dire qu'il n'est pas dit qu'on doit rester dans le statu quo, donc dans un seul domaine. Il y a beaucoup de domaines. Et aussi, une chose encore, M. Jourdi. Vous savez bien que ça pollue, ça cause pas mal de situations. Il faut mettre des préalables. Ça veut dire qu'avant de mettre une station, il faut remplir certains paramètres. On ne peut pas commencer comme ça, non. Il faut qu'on pose des préalables. Chacun doit remplir ses conditions avant de mettre là la station. Parce que ce n'est pas un secret. Ceux qui sont des détenteurs de ces stations ne sont que nos autorités qui nous dirigent. Alors je me dis, bon, ce sont elles qui devraient mettre de l'ordre. Mais on se demande, c'est un désordre vraiment total. Et je me dis, là où nous sommes en train de partir. D'ailleurs, il n'y a pas, vous savez que les camions anti-incendie arrivent souvent en retard. Ça, c'est connu de tous. Mais quand vous exposez toute la population comme ça, avec tous ces dangers-là qui la guettent, mais je me demande, il faut nécessairement que le gouvernement s'y attelle.
tranche sur ce problème, débat, donc ça dit traite de ce problème pour que vraiment qu'on puisse mettre qui doit ouvrir une station et qui n'a pas, celui qui n'a pas rempli les conditions, il n'a qu'à fermer complètement. Ou soit il va dans une autre activité. Il n'est pas dit qu'on n'a qu'une seule activité. Non. Et en plus, je sais que ça contribue quand même au développement de notre pays. Ça, c'est connu de tous parce que il y a un certain moment, les gens souffraient avec des bidons à gauche et à droite. Mais avec ce système de Kadhafi qu'on appelle ici à Lumbashi, mais je me dis non, ça quand même propulse le pays dans le développement, mais il n'est pas dit que le développement, il faut y aller dans le désordre.
Merci.
Parce que les écoles purinent aussi comme des champignons, et lorsqu'on croise les deux problèmes à la fois, c'est la société qui va en pâtir.
Merci,
il fallait que vraiment l'État prenne les choses avant les quoi.
Merci Jérémy de Lumbashi. Hassan Imwanda nous appelle de Bukavu. Bonjour.
Bonjour Jordi et bonjour à notre invité. C'est Emina Mwanda depuis la ville de Bukavu.
Emina Mwanda, quelle est votre question par rapport aux stations, services et dépôts des produits pétroliers?
Vraiment, seulement à des où on est en train de planifier une chose d'une manière théorique, mais la pratique en est une autre. À ce qui concerne la prolifération de stations de services, surtout dans le milieu à forte agglomération, ici à RDC, d'abord, si on se réfère au principe cher du droit de l'environnement qui dit sur le principe de pollueur-payeur, tout ce monde qui est en train de construire, tout ce monde qui est en train de polluer l'environnement en construisant
de polluer l'environnement.
Services.
Oui.
Allô?
Oui, tous ceux qui sont en train de polluer l'environnement, vous voulez dire?
Oui, tous ceux qui sont en train de polluer d'abord la nature, surtout en ce dernier moment ici, le propriétaire de ces personnes devait d'abord répondre de leurs actes en justice. Parce que ça cause des sérieux problèmes surtout la vie psychique et la vie sociale de la population actuelle. Et plus forte des raisons, soit une chose étonnante, on est en train de construire même ces personnes-là à tout proche des écoles où les enfants sont beaucoup plus exposés. Et nous, si on analyse bien cette situation, on peut dire qu'il y a aussi certaines couvertures dans ce genre de trafic. Parce que il y a des autorités qui sont en train de couvrir ces gens-là. Parce que d'abord, je prends l'exemple ici l'exemple typique d'ici à Bukavu. Et la place de l'indépendance qui a été envahie par une grande station de service, les agents de la société civile avaient monté au créneau, mais rien n'était pas modifié. Ce genre de trafic que nous devons appeler l'autorité compétente à prendre ses responsabilités à main pour éradiquer la situation. Sinon, les risques peut être vraiment considérable dans l'avenir.
Bien. Merci Emina Mwanda de Bukavu. Ingénieur Pépito, vous avez la parole.
Ben, c'est un constat qui est amer de le voir que c'est une situation générale au niveau de la République. C'est pratiquement dans toutes les grandes villes où on s'est plaint de cette réalité de choses. Mais il faudrait garder à l'esprit que la station-service n'est pas du tout un endroit où on se crée la mort. C'est aussi une installation commerciale, comme je l'avais dit tantôt. Mais seulement, nous devons réfléchir comment la chose devrait se présenter dans une agglomération. Il faudrait faire respecter les lois de la République. Je l'ai dit que la législation en la matière a des lois, des dispositions que nous devrons normalement faire respecter, et que il y a tous ces ministères-là, environnement, ministère de l'urbanisme et puis le ministère de l'économie devraient travailler en synergie pour essayer un peu d'assainir ces secteurs. Mais aussi, ces gens-là qui investissent dans ces secteurs, d'autres n'ont pas de formation qualifiée. D'autres n'ont pas, ce sont des commerçants d'hier, ils ne maîtrisent rien dans ces secteurs. Alors là aussi, c'est un souci. Les gouvernements, toutes les structures devraient les accompagner pour essayer un peu de réglementer et de faire appliquer la loi dans ces secteurs.
Prenons par exemple le cas de la station du rond-point Ngaba. Là-bas, c'est saturé. Vous trouvez des vendeurs qui étalent leurs marchandises à côté. Vous avez les taxis motos qui ont envahi cette station, des véhicules qui traversent à tout moment. Est-ce que une station devait fonctionner dans ces conditions-là?
Bon, la station de rond-point Ngaba, normalement, la décision reviendra aux autorités de décider, mais quand à mon humble avis, je trouve que la chose est très mal positionnée parce que c'est au niveau de la pente. Et puis actuellement, il y a une forte fluctuation. Donc la population, il y a une forte circulation. Et puis il y a peut-être il y a 5 ans passés, il n'y avait pas des habitations à côté, il n'y avait pas tout ça. Maintenant là, ça vraiment la station peut occasionner beaucoup de risques, beaucoup de mal. Donc c'est important pour les autorités d'analyser et puis de tirer des conclusions. Mais seulement que ça dérange et ça reflète une bombe à retardement.
Quels sont les dangers à avoir une station à côté des habitations, d'une école, des bars, des églises et autres?
Voilà, les dangers les plus permanents, les dangers qui nous inquiètent, c'est l'incendie. L'incendie, pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt, la station décrit une zone explosive. Suite à ces gaz, à ces vapeurs qui se volatilisent, ces vapeurs-là se condensent au niveau de l'environnement, au niveau de la nature, au niveau de l'air, et puis c'est là, décrit une zone explosive. Donc, une fois il y a une source de l'électricité, la flamme peut surgir, et c'est un danger. Imaginez-vous à côté d'une habitation, à côté d'une école où il y a des enfants, il suffit qu'il y a... Parce que l'électricité peut jaillir par plusieurs manières. On peut retrouver l'allumette, on peut retrouver même des déchets d'une cigarette, on peut retrouver même par électricité statique, quand quelqu'un se promène avec un habit inapproprié dans une station, cela peut occasionner une électricité statique par des ondes magnétiques. Voilà pourquoi on interdit toujours le téléphone dans une station, c'est pour des raisons sécuritaires. Voilà un peu tous ces aspects.
On demande même aux conducteurs d'arrêter les moteurs, ce qui vient...
D'arrêter les moteurs, oui. D'arrêter les moteurs, ce sont des mesures sécuritaires, mais là, toutes ces mesures ne sont parfois peu respectées, et alors ça nous expose au danger, ça nous expose à des situations catastrophiques.
Bien, maintenant que ces stations anarchiques sont là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement devrait initier un contrôle?
Normalement, il faudrait procéder par un contrôle d'urgence, dans le seul souci d'avoir une cartographie de toutes les stations-service de la ville de Kinshasa. Je vous informe que jusque-là, on ne sait pas donner les nombres exacts de toutes les stations de la ville de Kinshasa. Je me réfère d'une étude en cours d'un chercheur urbaniste, professeur à l'ISAU, monsieur Kabongo Mubikai, qui a compté dans la ville de Kinshasa 200 stations-service. Donc l'année 2018, il a fait le comptage 200 stations-service, mais aujourd'hui on peut encore observer qu'il y a des stations qui ne cessent de pousser comme des champignons. Donc il faut procéder par ces comptages, et dès lors qu'on a les nombres exacts de toutes les stations, on sait maintenant où le caser par rapport à un plan urbanistique de la ville. Les urbanistes sont là, et il y a tous les experts, tous les ministères. Ils vont s'entendre pour voir où peut-on placer ces installations, des équipements très dangereux, où on peut les placer. Parce que d'un côté, il y a les stations de service, il y a aussi des antennes de télécommunications. Ce sont des équipements très dangereux. Il faut les implanter dans des endroits où le risque sera amoindri.
Bien, nous allons accueillir Joski de Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour, M. Diodi. Bonjour.
Quelle est votre préoccupation, Joski?
D'après moi, normalement, ici, en RDC, plus particulièrement ici à Kindu, je vois, on a implanté ces stations après des personnes ici, devant la population. Donc, elles sont isolées dans les endroits-là. Sont vraiment dangereux. Vraiment, on pourrait seulement les isoler pour ne pas les mettre bien en place là où les personnes restent, là où résident les gens, parce que c'est très dangereux. C'est une chose très, très capitale. Parce que une fois qu'il y a l'incendie, c'est la population qui sera la victime. C'est très dangereux. C'est pourquoi je demande au gouvernement d'assumer sa responsabilité sur cette chose-là. C'est très bénéfique pour ça.
Bien, merci Joski depuis Kindu, qui nous dit que c'est très dangereux, même à Kindu, le constat est presque le même partout à travers le pays. Ingénieur Pepito, il y a une question qui a été posée ici. Qui a droit d'ouvrir une station? Est-ce qu'un simple commerçant, un politicien ou un homme d'affaires peut ouvrir une station-service?
Si on a de moyens, c'est aussi une installation commerciale, comme je l'avais dit tantôt, c'est pour vendre. Si on a de moyens, on a un commerçant On a tous les documents possibles. On a le registre de commerce. On doit respecter les normes de sécurité. On doit respecter les normes d'hygiène. On doit respecter la législation en la matière. On doit avoir tous les documents possibles. Dès qu'on a le moyen, on peut s'élancer dans cette affaire. Mais aussi, au-delà d'être investisseur, d'être entrepreneur, il faut aussi penser à la formation des agents. Parce que je trouve anormal que nos stations, les gens qui travaillent dans les stations-service, excepté peut-être les gérants qui ont une certaine connaissance en comptabilité, certains peut-être qui connaissent la caractéristique des produits pétroliers, mais les pompistes, généralement, ce sont des gens qu'on ramasse, des cousins, des frères, ils ne maîtrisent rien, au point même de négliger l'apport des équipements de protection individuelle. Combien de ces pompistes-là portent les bottes, portent des salopettes, et voilà, qui se comportent eux-mêmes en donateurs de leçons en matière de sécurité. Mais c'est grave d'observer qu'on peut, on peut encore l'observer dans une station, un pompiste qui téléphone. On peut encore observer que quelqu'un de station, un agent de station, qui se comporte n'importe comment. Donc, il y a un souci du point de vue formation des agents qui doivent travailler dans ce genre d'installation. Mais tout remonte au niveau de celui qui initie une telle activité, il a le moyen, il doit respecter les lois de la République et en contrepartie, le gouvernement doit aussi veiller à travers toutes les structures pour que cette installation soit réellement au profit de la population parce que Kinshasa a besoin de carburant pour son développement.
Bien, Kinshasa a besoin de son carburant, pas seulement Kinshasa, même toutes les la autres provinces, oui, la RDC. Quelles sont les normes d'installation d'une station service ou d'un dépôt pour du pétrolier? Des questions et préoccupations, eh bien, écrivez-nous à service@radiookapi.net.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Quelles sont les normes d'installation d'une station-service? Alors parlons à présent, ingénieur Pépito, des dépôts, des produits pétroliers. On retrouve des dépôts même au niveau des marchés. Par exemple, lorsque vous allez du côté des Lingessa, quelles sont les conditions pour d'installation ou d'un dépôt des produits pétroliers?
Pratiquement, ça rime au même avec les stations-service parce que ce sont des installations. Des équipements très dangereux. Alors, pour le cas de dépôt, la petite nuance, c'est que le dépôt, c'est pour entreposer. Ce n'est pas du tout pour vendre, mais c'est pour entreposer pendant un moment. Et quand on dit entreposage, on doit retrouver les équipements. On doit retrouver les équipements sécuritaires, on doit retrouver les équipements où on doit entreposer, on doit retrouver des citernes, ainsi de suite, des tanks, pourquoi pas. Et si on n'a que des fûts, on doit retrouver des fûts appropriés à ces domaines pour contenir le produit pétrolier. Mais c'est grave d'observer que le même fût que nous mettons l'huile des palmes, on se sert aussi pour mettre le produit pétrolier dans des dépôts où il n'y a même pas un extincteur. Imaginez-vous, il n'y a même pas un extincteur dans les dépôts où ceux qui travaillent là-bas n'ont même pas des équipements de protection individuelle, des casques, des lunettes et autres, des bottes. Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est par, je ne sais pas moi, quoi dire? Donc ça dérange. Alors, le dépôt pétrolier, on entrepose le produit pétrolier, ça devrait normalement se retrouver dans des milieux périphériques, et ça devrait aussi se retrouver à côté, entre guillemets, d'une rivière. Au cas où il y a un petit problème, on peut se servir soit du sable, soit et c'est tôt là pour intervenir, mais du moins à côté d'une rivière, pour essayer un peu d'équilibrer du point de vue de l'écosystème, avec toutes ces vapeurs-là qui sortent des réservoirs, qui sortent des fûts, et avec ce que de l'eau donne comme de l'énergie, ça pouvait quand même être équilibré. Mais quand on constate qu'un dépôt pétrolier est implanté, comme vous l'avez dit, en plein Mariano, où il y a des maisons, il y a des bars à côté, et comprenez, sur l'avenue Khartoum, si je me trompe, dernièrement, il y a eu l'incendie d'un dépôt pétrolier où cela a ravagé cinq maisons. Donc c'est grave, c'est triste. On ne fait que compter des morts, mais on ne sait pas agir.
Et pourquoi on ne sait pas agir, surtout que c'est des produits extrêmement dangereux?
Je tiens à vous féliciter, Radio Okapi, d'avoir parlé de ces sujets. Peut-être c'est tabou, peut-être la population aussi est habituée avec des morts et des morts, mais c'est important d'en parler au niveau de médias, d'interpeller les autorités, d'interpeller les décideurs, d'interpeller les entrepreneurs, et puis d'éveiller la conscience de la population pour qu'une solution soit trouvée.
Bien, ingénieur Pepito Sakasaka, je rappelle que vous êtes expert en sciences et techniques du pétrole et du gaz. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est à moi de vous remercier.
Radio Okapi. Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama. Okapi.
Quelles sont les normes d'installation d'une station-service? Prolifération, on assiste à une prolifération anarchique des stations-service et dépôts des produits pétroliers à Kinshasa. Ces endroits où les automobilistes peuvent se ravitailler en essence fonctionnent à proximité des habitations, des écoles, des hôpitaux et autres. Et d'après les experts, cela constitue un danger permanent pour la population. Quelles sont les normes environnementales à respecter avant d'installer une station ou dépôt des produits pétrolier, on en parle à présent avec Monsieur Freddy Moukoutoua, coordonnateur de l'ONG Attention aux hydrocarbures. Freddy Moukoutoua, bonjour.
Bonjour, bonjour, Monsieur Zoté.
Bienvenue dans cette émission, Freddy. D'après vous, qu'est-ce qui explique cette prolifération des stations-services qu'on assiste ces derniers temps à Kinshasa et dans d'autres provinces?
Le problème qui se pose avec la prolifération des stations-services, et le fait, d'abord, il faut qu'on salue que l'économie congolaise a connu une croissance exponentielle. Parce que la consommation des produits pétroliers est liée à la croissance économique. C'est parce qu'il y a eu cette croissance-là, effectivement, il y a beaucoup à dire par rapport à cette croissance économique. Quant à la population, on aurait tombé sur la population, mais du moins, cette croissance a entraîné une croissance dans la consommation de produits pétroliers. Alors, comme la consommation a connu cette croissance, automatiquement, le besoin en équipement, le besoin en consommation a aussi connu une croissance. C'est pourquoi les commerçants se sont lancés dans cette activité. Ils construisent un peu partout des stations de service, ils construisent un peu partout des dépôts pétroliers. Et c'est ça la raison.
Voilà, c'est ça la raison. Quels sont les dangers que cela représente pour la population, Freddy Moukoutoua?
Les dangers sont énormes. Ce sont les mêmes dangers qui reviennent avec la manipulation des produits pétroliers. Les dangers sont de plusieurs ordres. Il y a les dangers liés à la manipulation des produits pétroliers sont effectivement mentaux, comme notre ami venait de le dire. Et comme on le dit toujours, à ce niveau, c'est l'inflammabilité qui est là présente, la toxicité qui est présente, pour ne citer que ça, il y a aussi l'explosion qui est présente, il y a aussi la corrosivité qui est toujours présente. Je ne cite que ça parce que les dangers sont énormes.
Voilà, les dangers sont énormes. Alors dites-nous, Freddy, quelles sont les normes à respecter pour avant d'installer une station service?
L'ingénieur venait de le dire, la station de service, c'est un domaine purement technique. Vous allez comprendre que dans le domaine de la sécurité, quand nous parlons des accidents, à 86% les accidents sont causés par l'homme et à 14% par l'équipement. Donc 14% c'est quand même beaucoup. Et même quand je dis 86%, 60% c'est le facteur humain direct, mais vous vous retrouvez avec 26% qui est lié à l'organisation. Donc la station de service ou bien les dépôts pétroliers, c'est un équipement qui nécessite une normalisation. Donc la science définit comment on doit placer un dépôt pétrolier, la science définit également comment on doit placer une station de service, où le placer et comment il faut le construire, quel matériel il faut utiliser. Tout ça là est normalisé. Et quelles sont ces normes? C'est purement technique, c'est vaste, nous citerons beaucoup de choses, mais je vais vous donner un exemple simple. Je prends, si vous voulez garder l'entreposage, avoir un dépôt pétrolier, parce que la station de service aussi, elle a une citerne. La citerne, là, doit avoir respecté des normes pour que, à chaque fois qu'on va laver des dents, le produit qu'on va utiliser pour laver des dents, que le métal ne soit pas corrosif. Parce que si le métal est corrosif, le produit que vous allez mettre dedans va aussi s'abîmer et après, ça sera le consommateur qui va en pâtir. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, l'aspect de l'inflammabilité, on ne peut pas placer un dépôt pétrolier ou bien une station-service à côté d'une activité qui a production du feu. Si vous placez à côté, à tout moment, vous aurez les feux avec vous et il y aura des problèmes pour gérer ce que nous appelons l'atmosphère explosive qui est la zone ATEX.
Donc, il y a aussi des normes d'hygiène qu'il faut respecter. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Effectivement. Quand je parle de la corrosivité, c'est quoi? Les produits pétroliers, la toxicité. Les produits pétroliers, ils émettent des vapeurs. L'odeur là, c'est une odeur très dangereuse pour les gens qui sont autour de la station de service ou bien autour du dépôt pétrolier. Mmh. Et vous verrez que les gens qui habitent les secteurs où il y a des dépôts pétroliers, ils développent plusieurs maladies à caractère toxique. Il y a le poumon qui connaît des problèmes, les cœurs qui connaissent des problèmes, et c'est à cause de la station ou de l'activité pétrolière qui est à côté. Alors, les normes d'hygiène, l'homme qui travaille déjà dans la station-service, il a sur lui ce que nous appelons les EPI, les équipements de protection individuelle. S'il ne les a pas, automatiquement, il est exposé. Il est exposé à plusieurs niveaux. Il peut produire le flamme lui-même, avec son corps, avec ce que nous appelons les phénomènes de l'électricité statique. Il peut produire lui-même le feu. Et de l'autre côté, s'il n'est pas protégé par rapport aux masques et toutes ces histoires-là, lui-même, il peut produire des maladies. Donc, il y a toutes ces normes-là. Et comme je parlais de la citerne, quand vous entrez dans la citerne pour la nettoyer, ça nécessite beaucoup de normes hygiéniques pour empêcher à ce que celui qui travaille tombe malade.
Voilà. Est-ce que la grande question de savoir, est-ce que tous ceux qui travaillent dans ces stations-là ont des notions, ont été formés par rapport à toutes ces notions dont vous faites allusion?
Voilà. Le problème est regrettable. Le problème est regrettable parce que le Congo appelle pétrolier un commerçant qui vend le pétrole. Donc on appelle pétrolier quelqu'un qui vend le pétrole. Donc le pétrolier, ce n'est pas un vendeur de pétrole. Le pétrolier, c'est quelqu'un qui a la connaissance du pétrole et qui sait à quoi il a affaire et qui n'expose pas la population. Or, la loi congolaise en vigueur demande à ce que tout acteur du secteur pétrolier soit le premier qui doit protéger la population. Or, la plupart ne connaissent pas ce qu'ils font.
Bien, mais lorsque une station est installée juste à côté d'une maison, quelqu'un vient, achète une parcelle, parce que c'est sur la grande route, et bien, il construit une station à côté des maisons, quels sont les dangers que cela représente pour les voisins?
Je venais de vous parler de la zone ATEX. C'est quoi une zone ATEX? La zone ATEX, c'est que quand on fait une activité pétrolière, l'essence en particulier, parce que les produits pétroliers sont inflammables, quand et puis ils sont volatiles. Ils sont en train de produire des vapeurs. Alors les vapeurs d'essence qui se mélangent à l'air, parce que quand on a besoin du feu, nous avons besoin de trois éléments. Vous avez besoin du comburant, vous avez besoin du combustible et vous avez besoin de la source de chaleur. La source de chaleur, c'est le feu que nous connaissons, qui peut avoir plusieurs sources aussi. Le comburant, c'est l'oxygène qui est dans l'air. Et le combustible, c'est ce qui va brûler. Qui peut être soit matière, la matière peut être soit du gaz, soit un liquide. Alors, pour les cas du produit pétrolier, nous avons ce liquide que nous utilisons. Mais quand vous êtes en train de travailler, ça se transforme en vapeur. Ça c'est volatile, ça va comme des vapeurs. Et mélangé à l'air, ça se mélange à l'oxygène. Donc nous avons déjà deux éléments. Nous avons et le comburant et le combustible. Il manquera juste la source de chaleur. Or, la source de chaleur, le voisin qui est à côté peut être en train de préparer. Il peut être en train de préparer, il peut être en train de repasser, sa télévision peut être en train de fonctionner, sa radio également, et la zone ATEX, là, c'est-à-dire les carburants qui sont mélangés à l'air, qui est l'oxygène, est en train d'aller. Il ne monte pas, il descend, parce que les hydrocarbures sont lourds. Il descend. Mmh. Et il est en train d'aller bas, il peut se retrouver dans une maison où il y a quelqu'un qui est en train de préparer et directement il y aura explosion et ça va retourner jusqu'à la station et la maison elle-même va brûler.
Donc ça crée une atmosphère explosive.
Voilà. L'atmosphère explosive, là, elle est en train d'aller avec l'air. Je vous donne le cas qu'on a eu à Sangay, par exemple. Sangay, vous allez constater qu'il y a des maisons où les gens ont été calcinés. Parce que quand il y a eu renversement de la citerne et que le carburant coulait, la zone là, à texte que j'appelle l'atmosphère explosive là, était en train d'entrer dans des maisons. Et quand ça entre, partout où ça entre, si ça rencontre une source de chaleur, la source de chaleur, ce n'est pas seulement une allumette. Ça peut être aussi un téléphone, ça peut être un poste téléviseur, ça peut être un réchaud et tout ça là. Maintenant, une maison qui est à côté d'une station de service ou bien d'un dépôt pétrolier, ça expose et les dépôts et la maison elle-même.
Bien, nous allons accueillir deux auditeurs, Ben de Kananga et Frédéric de Kinshasa. Oui, Frédéric, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
Ok, moi, à mon humble avis, j'aimerais tout juste ajouter quoi. L'idée, c'est que notre invité vient le dire, des grandes stations des pétrolières sont construites donc, sur les grandes routes. Et vous verrez ici, en ville de Kinshasa, si vous arrivez au niveau des boulevards Willery, en face de Salon France, qui l'avait quitté, il y a une station pétrolière qui est installée là-bas. Si vous faites comme si vous descendez au niveau des ronds-points, il y a encore une station là, qui est construite là. Ça pourrait créer des dangers pour notre population de la ville de Kinshasa. Et ça pourrait encore créer des incendies. Parce qu'aux alentours de cette station là, il y a des gens qui utilisent des choses inflammables, comme le téléphone, appareil téléphonique, les autres pourraient préparer. Et ça pourrait créer un grand danger dans notre société.
Merci Frédéric de Kinshasa. Alors Freddy Moukoutoua, quelle est la distance qu'on doit retrouver entre deux stations?
En fait, les stations peuvent se suivre, mais le problème c'est qu'on doit respecter la matière utilisée pour construire un équipement pétrolier, la matière normalisée. Même les téléphones dont nous parlons, il y a des téléphones qu'on peut utiliser dans une station de service, ça existe. Il y a un poste téléviseur qu'on peut utiliser dans une station de service, ça existe. Vous verrez que la station de service n'offre pas seulement le carburant que nous avons besoin de consommer. La station de service peut aussi offrir d'autres articles. Vous pouvez avoir un supermarché dans une station de service, c'est possible. Mais seulement, il faut respecter les normes dans la construction. Il y a de la matière qu'il faut utiliser dans un dépôt pétrolier pour construire et dans une station de service. Effectivement, ici au Congo, nous avons quelques firmes qui respectent ça. Cette station qui respecte les normes, on peut la placer n'importe où, il n'y a pas de problème si elle respecte les normes. Mais juste à côté, quand vous parlez de stations, c'est un problème de besoin. Si le besoin est énorme, les stations peuvent se suivre, il n'y a pas de problème.
Voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors parlons des dépôts des produits pétroliers au niveau de marché. Il y a certains qui gardent même des produits pétroliers dans des maisons.
Nous continuons à interpeller. Nous continuons à interpeller et merci à vous, Radio Car, pour nous aider le plus souvent à communiquer, à aider la population à suivre ce que nous faisons comme sensibilisation. Mais malheureusement, l'autorité qui accorde le document à un gestionnaire des dépôts pétroliers, l'autorité qui accorde les documents, ne tient pas compte de sa population. On se retrouve avec les produits gardés dans des maisons, et dans quel genre de récipient? C'est dans des bidons. Et nous continuons à dire toujours que le bidon est un mauvais récipient, le plastique est un mauvais récipient pour les hydrocarbures. Nous continuerons toujours à les dire. Mais malheureusement, il y en a dans les marchés, il y en a partout. Les gens diront, comme on les dit toujours, nous avons fait ça depuis longtemps, et il n'y a jamais eu de problème. Mais vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, au Bas-Congo, là, avec le camion citerne qui a pris feu. Combien il y a eu de morts là-bas? La vie n'a pas de prix. Le jour où il y a accident, la vie n'a pas de prix.
Et qu'est-ce qui est fait au niveau de votre ONG, attention aux hydrocarbures, par rapport à la sensibilisation?
Notre sensibilisation, nous sommes plutôt, le plus souvent, en avant, parce que la chaîne de sécurité, les postes d'ordre, il y a... Premièrement, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous sensibilisons, mais il y a l'aspect protection qui va suivre, puis l'aspect intervention qui suit. Mais tout ça là, c'est une formation. L'ONG Attention aux hydrocarbures, à part que nous avons des acteurs sensibilisateurs aux dangers liés à la manipulation des pétroliers, nous avons aussi des formations que nous donnons. Et nous lançons, par pouvoir ici, à tous les opérateurs du secteur pétrolier, de suivre les formations, parce que nous avons les formations. Nous donnons des formations pour que du secteur pétrolier soit informé de ce qu'il doit faire avant, pendant et après son activité. Nous avons toutes ces formations-là, on peut donner, quand il s'agit de la prévention, on peut donner des formations, quand il s'agit de la de la protection, on peut donner des formations. Et quand il s'agit également de l'intervention, nous pouvons donner des formations. Nous avons ça.
Voilà, vous pouvez donner des formations aux propriétaires de ces stations ou aux agents qui travaillent là-bas qui n'ont pas été formés par rapport à la manipulation des produits pétroliers. Alors, ceux qui sont intéressés, comment peuvent-ils vous joindre?
S'ils veulent nous joindre, nos numéros, c'est le plus 243 81 216 98 82. Ça, c'est par rapport au téléphone. Et par mail, ils peuvent toujours nous écrire, c'est ong.aah@gmail.com. ong.aah@gmail.com. Si c'est à Kinshasa, ils veulent nous voir. Nous sommes sur Tombalbaye, au bâtiment ACP, le local 44, nous sommes là. Et si c'est à Lubumbashi, nous nous retrouvons sur l'avenue des Cyprès, au quartier Belin, au numéro 22.
Bien. Merci Freddy Moukoutoua. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG Attention aux hydrocarbures. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est nous qui vous remercions.
Fidèles auditeurs, nous mettons un terme à, c'est par ici que nous mettons un terme à cette première partie de l'émission au Capi Service consacré aux consacré aux normes d'installation des stations services et dépôts des produits pétroliers. Nous allons suivre les informations et on se retrouve juste après dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous.
Radio Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Quelles sont les normes d'installation d'une station service et dépôt pétrolier? Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Eh bien, à Kinshasa, le collectif contre la vie chère et la défense des droits des consommateurs s'inquiète par rapport à la prolifération ces derniers temps des stations service sans respect des normes et conditions fixées par la loi. Dans une déclaration faite dernièrement, Jean-Pierre Kayembe, président de ce collectif, a alerté les autorités du pays sur les dangers que représentent ces stations de distribution des produits pétroliers en construction à côté des habitations, des écoles et autres lieux de culte. Jean-Pierre Kayembe, vous êtes président du collectif contre la vie chère et la défense des droits des consommateurs. Bonjour.
Bonjour Monsieur le Prince, bonjour Radio Okapi, bonjour aux auditeurs.
Et qu'est-ce qui vous a motivé à dénoncer cette prolifération des stations dans la ville de Kinshasa?
Je crois que nous sommes partis d'un constat très simple ici à Kinshasa. Vous vous rendrez compte qu'il y a une prolifération de stations-service communément appelées pompes-essence à Kinshasa, parfois qui se suivent d'une avenue à une autre. Et parfois, nous nous sommes posé la question, est-ce que ces stations-service, leur installation respecte les normes en vigueur ou les normes internationales?
Oui. Et à titre illustratif, où se trouve, avez-vous identifié ces endroits où on érige les stations?
Je crois très bien que si vous connaissez très bien Kinshasa, pour ceux qui connaissent Kinshasa, si nous sommes dans la commune de Barumbu plus précisément, et aussi à la commune de Kinshasa, à la frontière entre la commune de Kinshasa et la commune de Barumbu, vous allez sur au croisement des avenues Luambo-Makiadi, au croisement Luambo-Makiadi et Kabambar, ex-Bokassa, vous allez vous trouver une station érigée là, et que d'entre cette direction Bokassa et Kassai, sur l'avenue Kabambar, vous trouverez qu'il y avait des anciennes stations essence érigées au croisement de Bokassa et Kabambar, et aussi Kassai et Kabambar. Mais entre ces tronçons, entre allant de Bokassa jusqu'à Kabambar, il y a encore de nouvelles stations qui sont en train d'être érigées. Mais on se pose la question, est-ce que les normes d'installation des installations classées sont-elles respectées?
Voilà. Alors, est-ce que cela représente un danger? Quels sont les dangers que cela représente? Parce qu'on a parlé avec certains experts qui disent qu'il n'y a pas des dangers que les stations se suivent. Il faut plutôt respecter les normes en la matière.
Alors, je crois très bien que nous n'allons pas inventer la roue. Et il y a, selon l'institution, l'Institut de santé publique de Québec affirme que l'exploitation de produits pétroliers présente les risques pour la santé. Et cette institution affirme que parfois, ça peut engendrer des séquelles chroniques potentielles, de présence de certaines anomalies cellulaires et des mutations chroniques. Ce serait des conséquences ou des dangers que pouvait peut-être avoir la population. Et toutefois, surtout en cas d'incendie, vous allez vous rendre compte que cela pouvait en exposer la population à des émanations de produits toxiques. Donc, ce sont des dangers là que nous pouvons citer pour ceux qui sont pour la population avoisinante.
Voilà. Alors, vous avez dénoncé cette situation. Avez-vous saisi les autorités dans les secteurs pour exposer votre problème qui gère les secteurs des hydrocarbures?
Nous sommes en pleine consultation pour la question, pour essayer un peu de comprendre ce qu'est le problème. Parce que, premièrement, d'abord, si les experts disent qu'il faut respecter les normes, mais vous vous rendrez compte qu'il y a l'arrêté numéro 01/98 du 5 janvier 1998 fixant les modalités d'implantation des stations de distribution des produits pétroliers qui veut que entre des stations qui est la distance de 500 mètres au moins. Et si vous rendez compte que entre ces tronçons, c'est-à-dire les stations érigées entre Kassai et Kabambar, il y a des stations en diagonale. Je ne sais pas si, je suis en train de me poser la question, si réellement il y a 500 mètres de distance.
Bien, nous allons accueillir Théophile de Kananga. Bonjour.
Bonjour, Jody.
Quelle est votre préoccupation, Théophile?
Oui, merci de m'avoir accordé la parole, Jody Daniel Nkachuma. J'avais donné un petit condensé sur ma page Facebook en disant les stations de carburant ou le dépôt de carburant doit être à la distance, à une longue distance avec la population, parce que ça va créer des explosions. Vous-même, vous le savez que nous, les hommes noirs, notre compréhension est toujours très compliquée. Vous voyez, on a mentionné des signes. J'avais même laissé mes commentaires sur la page Facebook sur les signes qu'il faut vraiment accepter pour éviter les explosions dans les dépôts de carburant. Vous voyez, il y a les armes, il y a même des allumettes, nous avons l'embranlement des téléphones. Par exemple, le cas qui s'était passé ici à Kana, dans la commune d'Endesha, pour ceux-là qui habitent la ville de Kananga, dans l'avenue Lusambo. Dans cette avenue-là, il y a une ribambelle de dépôts comme ça, s'élevant pour les carburants. Il y avait un homme qui avait embranlé un téléphone comme ça, un homme inconnu. Lorsque le téléphone s'est embranlé, ce pont-là a veillé vraiment de feu. C'est presque le propriétaire de ce dépôt-là avait perdu plusieurs carburants. C'est suite à cela, je dis seulement à l'État de mettre les dépôts dans une longue distance où il n'y a pas la population, juste pour éviter la mort.
Bien, merci Théophile de Kananga. Monsieur Jean-Pierre Kayembe, qu'est-ce que votre réaction par rapport à ce que vient de dire Théophile?
Mais je crois que ça vient de corroborer notre position, en ce sens que je félicite d'abord notre auditeur de Kananga, une ville que je maîtrise bien. Je crois que dans le temps, il s'est passé un problème très sérieux à ces dépôts-là au niveau de l'avenue Lusambo. Et que vous vous rendez compte que parfois la culture de la population avoisinante, des fois vous vous rendez compte que quelqu'un qui, on lui dit que dans une station essence, vous ne devez pas vraiment donc décrocher votre téléphone, et que vous vous rendez compte que la population n'arrive pas vraiment à respecter ces principes-là. Et ces normes-là, et bien aussi vous trouverez que parfois, quand les stations-service sont juste côte à côte, parce que vous savez très bien que selon les mêmes arrêtés que je venais d'évoquer si haut, on dira que il faut au moins 1000 mètres, s'il faut parler des institutions publiques et d'autres administrations, 100 mètres des établissements d'enseignement, hôpital, lieux de culte et terrains de sport et autres, tout ça. Ça montre très bien que non, ces installations classées ne devraient pas vraiment être côte à côte de la population, parce que la maîtrise du danger est parfois peut-être maîtrisée par ceux qui sont en train d'œuvrer dans les sites, dans les secteurs. Mais par contre, la population avoisinante qui n'arrive pas vraiment à maîtriser le danger de ces produits pétroliers ne pourrait pas vraiment respecter ces normes-là. Ce qui fait que ça va intensifier les risques du danger d'incendie.
Voilà. Et quelles sont les autres normes d'installation des stations d'après le règlement dont vous faites allusion.
Mais en fait, il y a premièrement d'abord le préalable d'installation. Le préalable d'installation pour arriver pour arriver à installer une installation classée qui donc ou une station essence, il y a quand même des préalables. Il fallait quand même consulter les autorités municipales, mais aussi je m'aimerais mettre accent, on dit aussi qu'il faut aussi consulter le public. Souvent nous constatons parfois que dans de tels cas la population n'est pas souvent consultée.
Bien, nous allons accueillir deux auditeurs, Héritier Wamenga de Kisangani et César depuis Arihuara. Héritier, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la prolifération des stations-services?
Voilà, je voudrais passer ce témoignage pour dire qu'à Kisangani, présentement, il y a une montée exponentielle de construction des stations dans toutes les communes de la ville. Voilà, nous nous demandons, ces stations sont érigées à côté de maisons d'habitation. Et la question que je pose à l'invité, est-ce que l'État qui octroie ces espaces aux détenteurs de stationnaires ne voit pas ce que nous sommes en train de dénoncer, ou est-ce qu'ils sont en train de minimiser les risques qui peuvent faire l'objet des stations à cas peut-être descendues? Et si seulement si le détenteur de ces stations passe au service de l'État pour solliciter l'autorisation, est-ce qu'il y a vraiment le service de contrôle qui passe avant de construire ces stations? Voilà, c'est une sorte d'interrogation que nous nous posons sur la prolifération exponentielle de ces stations dans la ville de Kisangani.
Bien, merci Héritier. César, vous êtes à Arihuara. Bonjour.
Oui. Oui, bonjour, c'est Sonia la promenade d'Ariora.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, César?
Oui, j'ai des questions à poser à l'invité.
Oui.
La première, c'est de savoir, qu'est-ce que fait l'État concrètement, après avoir fait ce constat-là? Autre question qui se pose, alors, est-ce que c'est l'État qui permet à ces gens-là de construire n'importe où, ou alors il le faut, ça qu'ils soient au courant? Merci beaucoup.
Bien, merci. Jean-Pierre Kayembe, vous avez la parole.
Je crois que j'aimerais répondre à la dernière question que fait l'État. Je crois que nous, en tant qu'une association, un collectif de défense des droits des consommateurs et pour la défense des droits des consommateurs, je pense que c'est la plus grande question que nous nous posons. Quand nous constatons cet avènement de prolifération de stations essence, peut-être d'une avenue à l'autre, peut-être dans plusieurs quartiers comme notre auditeur de Kisangani, c'est un interrogatoire que nous, en tant que collectif contre la vie chère et pour la défense des droits des consommateurs, que nous nous posons. Parce que nous sommes là pour protéger le consommateur et la population d'une manière générale. On se pose la question, ces stations essence se construisent au vu de tout le monde. Et que l'État congolais qui devrait protéger la population, qui devrait vraiment prendre les mesures de prévention, nous nous posons la question, est-ce que l'État est en train de prendre ses responsabilités? C'est pourquoi nous avons pensé vraiment d'en faire une sonnette d'alarme, afin que l'État puisse essayer un peu de revenir sur cette question. Parce que la question de l'installation, il y a le ministère d'urbanisme qui devrait délivrer certainement l'autorisation de bâtir. Alors, nous nous posons la question, qui délivre ces autorisations? Ça, c'est la plus grande question que nous pouvons nous poser. Parce qu'avant qu'on puisse ériger ces installations classées, donc je pense très bien que non, il y a quand même une certaine expertise, une commission d'analyse au niveau de ministère de l'urbanisme, qui devrait normalement analyser les dossiers afin de délivrer le permis de construire. Est-ce que vraiment le ministère des tutelles est informé? S'il n'est pas informé, je pense que c'est une occasion pour lui qu'il soit informé. Et l'État congolais qui a le devoir de protéger sa population devrait vraiment s'incliner sur la question et se faire de tout son mieux afin de protéger la population.
Jean-Pierre, est-ce qu'on peut dire que tous ces gens qui érigent les stations ont des papiers en bonne et due forme?
Je crois que c'est une enquête que nous sommes en train, qui est en cours d'être réalisée par une commission, la Codex Surveillance Qualité. Nous sommes en train de mener une enquête pour savoir si toutes les installations classées qui sont en train d'être érigées de part et d'autre sont en norme. Parce que la plus grande question, je pense qu'on a parlé, donc les experts ont dit pas de danger, mais nous pensons qu'il y a du danger parce que nous comprenons, en cas d'incendie, la population ne sera pas épargnée, la population environnante ne sera pas épargnée. Mais la question de normes, je crois très bien que non, il y a une certaine procédure
à respecter. Oui, les experts ont dit si c'est à côté, à proximité des maisons, oui, il y a certainement les dangers. Mais si c'est à un endroit isolé et que les stations se suivent là, ils disent que si on respecte les normes, il n'y a pas de danger.
Mais je pense très bien que vous devez interroger les experts pour leur demander à Kinshasa les installations, c'est-à-dire les installations classées, c'est-à-dire où les stations, les stations services se trouvent en pleine ville. Je sais pas. Vous comprendrez que non, c'est toujours à côté de la population. Donc il y a du danger.
Voilà. Et que, à part la dénonciation, qu'est-ce que vous comptez faire, les actions que vous comptez faire pour que cette situation change?
La première des choses, nous allons devoir entamer. Nous sommes en train de faire des enquêtes sur la question auprès de services compétents pour savoir si, d'abord, premièrement, qui délivre ces autorisations, enfin que nous puissions. Est-ce que parfois, nous voyons parfois que je vous ai dit que normalement on devrait consulter aussi la population environnante, la chose qui n'est pas faite. Alors nous sommes en train de pouvoir mener des enquêtes pour savoir qui délivre ces autorisations et puis savoir si les ministres des ministres de tutelle, donc ministre de l'urbanisme qui devrait délivrer, concourir à la délivrance des autorisations, est-il informé, mais aussi les ministres des hydrocarbures, donc parce que normalement ils doivent concourir vraiment à la protection de la population. En dépit de ça, nous faisons des déclarations pour vraiment sonner. Si parfois ils ne veulent pas nous recevoir, ceux qui sont en train de militer pour la protection de la population, nous faisons des déclarations. C'est pourquoi nous félicitons la radio Okapi, parce qu'ils nous accompagnent, ils portent notre voix plus haut pour que les autorités pensent, sachent que sur le terrain, peut-être certaines choses se font sans respect des normes. Donc ils doivent s'impliquer. C'est-à-dire, si c'est ça dans les normes, c'est-à-dire les autorités doivent s'y pencher et pouvoir prendre des mesures de douane afin de protéger la population.
Est-ce qu'on peut dire que certains services de l'État sont corruptibles? Ils reçoivent l'argent, ils perçoivent l'argent de la part de ces entrepreneurs et puis ils ferment les yeux, ils donnent des autorisations comme ça?
Je ne peux pas l'affirmer, monsieur le journaliste, parce que il faudra vraiment mener des enquêtes à fond pour connaître si le service ont été corrompus ou soit peut-être il s'agit de certaines négligences par ces services. Mais toutefois, s'il s'agit de la corruption, nous allons les dénoncer sans avoir peur de qui ce soit.
Mais nous savons par exemple dans la commune de Bandalungwa, à Chibangu, il y a une station qui était en construction à côté d'une maison. La population s'est levée, elle a fait du bruit et puis les autorités étaient obligées d'agir. Et la station a été fermée.
Nous en appelons à toute la population congolaise. Nous, en tant que collectif contre la vie chère et pour la défense des droits des consommateurs, nous sommes là pour accompagner la population, mais aussi réveiller la population qui dort. Parfois, des fois, la population ne comprend pas tout ça. C'est ainsi parfois qu'on est tellement négligent, on ne s'intéresse pas à certaines choses, mais parfois, certaines choses qui nous mettent en danger. C'est ainsi que c'est pour, en tant que dans notre mission, nous sommes en train de veiller la population congolaise de pouvoir, s'ils pensent que la chose n'est pas dans les normes et que ça ne répond pas, c'est-à-dire ça les expose. Je pense très bien que non, ils peuvent venir vers nous. Nous avons des journées portes ouvertes que nous organisons auprès dans nos installations afin d'enquérir de leur doléance et de leurs plaintes afin de pouvoir amorcer des plaidoyers, des déclarations, des consultations en vue de l'amélioration. Parce que ce que nous visons, c'est l'amélioration des services et non étouffer n'importe quel secteur économique.
Bien. Jean-Pierre Kayembe, président du collectif contre la vie chère et la défense des droits des consommateurs, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Radio. Okapi
Service, jeudi Daniel Kachama.
Okapi. Quelles sont les normes d'installation d'une station-service? On assiste ces derniers temps à une prolifération anarchique des stations-service et dépôts des produits pétroliers à Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces. Ces endroits où les automobilistes peuvent se ravitailler en essence fonctionnent à proximité des habitations, des écoles, des hôpitaux, des églises et autres. Et d'après les experts, cela constitue un danger permanent pour la population. Quelles sont les normes environnementales environnementale à respecter avant d'installer une station service. Nous avons en ligne le professeur Ursile Lelo Di Makungu, expert en droit de l'environnement. Professeur Ursile, bonjour. Professeur, dites-nous quelles sont les normes environnementales à respecter pour installer avant d'installer une station service.
Merci, cher Jody. En fait, l'économie générale de la disposition impérative à respecter pour l'installation d'une station de carburant ou station service, c'est l'article 21 du Code de l'environnement de 2011 qui impose que toute activité de nature à avoir un impact considérable sur l'environnement, cette activité doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social afin de décrire le projet, la situation initiale, le risque, la participation du public et aussi l'invitation des experts des différents services, comme vous étiez en train déjà d'en débattre, les services de l'urbanisme, les services des hydrocarbures et tous les services impliqués pour que tous ces services se prononcent sur la conformité. Et tout ça, c'est sous la houlette de l'Agence congolaise de l'environnement. Voilà un peu la procédure à suivre. En principe, s'il faut aller dans la pratique, il faudrait que les services soient déclarés au niveau de l'Agence congolaise de l'environnement. Et par la suite, l'exploitant concerné doit produire ce qu'on appelle les termes de référence ou soit recourir à l'expertise d'un bureau d'études. Et une fois les termes de référence est validé, et s'en suivra par la suite l'étude proprement dite. Et à la fin, cette étude doit être validée avec la participation du public et des universités pour essayer de voir si toutes les normes environnementales et tout le risque d'incendie et de pollution d'eau et aussi les risques de divers ordres sont tout à fait respectés ou pris en compte et aussi des actions correctives. Ça, c'est pour les entreprises qui veulent installer des stations. Mais également, il y a déjà des stations qui ont été réalisées avant la promulgation de la loi. Et dans ce cas-là, la loi impose ce qu'on appelle les certificats de conformité. C'est que les mêmes exploitants des stations doivent aussi mener des études pour justifier si leurs infrastructures répondent aux normes de sécurité, aux normes environnementales, pour que la population ne soit pas exposée. Mais malheureusement, dans la pratique, il y a un conflit d'intérêts et parfois miné d'impunité. Dans la plupart des cas, les exploitants du secteur pétrolier confondent à dessein le procès verbal d'enquête ou de constat, d'enquête commodo-incommodo avec une étude d'impact environnemental. Mais de l'autre côté, le législateur n'a pas doté l'Agence congolaise de l'environnement des mécanismes de pouvoir de police tout à fait contraignants pour faire respecter ces dispositions. Et dans la plupart des cas, il y a toujours une couverture, soit des politiciens, soit des services spécialisés et parfois de l'armée sur des questions qui intéressent l'étude d'impact environnemental, et on l'observe aussi dans la pratique dans des provinces. Parfois, même les ministres provinciaux sont menacés pour avoir fait leur travail. Et aussi, c'est un secteur sensible où il y a les dollars. N'oublions pas le phénomène pétro-dollar, oui. Qui dit exploitant du secteur pétrolier, c'est synonyme de l'argent. On ne peut pas avoir peur de dire qu'il y a trop de corruption et d'impunité, et c'est sur base de cette impunité que la plupart des stations-services ne veulent pas respecter la loi. Et je vous dirais que, sans pour autant passer par des rigueurs des collègues de données, mais la tendance démontre qu'environ 90% des stations n'ont pas d'étude d'impact environnemental et social et les stations sont installées à côté des écoles, à côté des hôpitaux, à côté des églises, à côté des habitations, sans aucune considération des normes imposées par les normes techniques imposées par le code de l'environnement. Mais aussi, il y a lieu de dénoncer le manque de collaboration entre les services de l'environnement. Il y a une guerre ouverte dans ces pays entre la coordination provinciale de l'environnement et l'Agence congolaise de l'environnement. Ces deux services ne s'attendent pas. De l'autre côté, oui. Il y a aussi une faible collaboration entre la division des hydrocarbures, la coordination provinciale de l'environnement et l'Agence congolaise de l'environnement. Et aussi un problème de vulgarisation. Et même les syndicats patronaux ne prennent pas conscience de la protection de l'environnement. Et dans la plupart des cas, c'est aussi la Fédération des entreprises du Congo qui vient au premier plan pour dire que l'Agence congolaise de l'environnement est en train de fracasser les assujettis, les
professeur
opérateurs
Ursile,
économiques.
Tout ça. Oui. Professeur Ursile, d'abord, aidez-nous à comprendre quelles sont ces normes environnementales qu'il faut respecter pour installer une station-service.
Les normes environnementales que le législateur impose, c'est de réaliser une étude d'impact environnemental et social. Et cette étude, c'est un préalable. Le domaine des droits de l'environnement, c'est un domaine sensible. Le domaine de l'environnement, c'est un domaine sensible. Ça suppose qu'une étude doit être conduite par un bureau d'étude agréé par l'Agence congolaise de l'environnement pour décrire la situation initiale, la nature d'activité et les différents risques possibles et aussi proposer des actions correctives et à la fin doter l'exploitant d'un plan de gestion environnementale et sociale pour faire face à tous les risques.
Mais alors professeur, professeur, parlez-nous de, quand même de quelques risques. Quels sont les risques environnementaux et les solutions à envisager?
Bon, le risque environnemental, c'est par exemple la pollution d'eau. Le risque environnemental, c'est par exemple la pollution d'eau. Le risque environnemental, c'est aussi l'incendie. Alors, on peut analyser et voir la nature des citernes. Est-ce que ces citernes correspondent réellement aux normes de sécurité technique pour l'entreposage de carburant? Est-ce que ça peut résister à la chaleur? Parce que si on ne sait pas contrôler la chaleur, ça peut provoquer l'incendie. Et s'il arrive que l'incendie soit provoqué, alors comment lutter contre cet incendie avant que cet incendie ne crée des dégâts? Vous savez qu'il y a des cas dramatiques que nous avions connus, tels que l'accident des Sangues dans le Nord Kivu.
Oui.
Alors, voilà un peu quelques risques.
Bien, voilà quelques risques que cela représente. Nous allons accueillir Simon Pierre depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup pour m'avoir fait passer en direct à la radio Okapi. Je salue tous nos auditeurs. Tel que j'ai commenté sur votre page Facebook, j'ai dit que la façon de se réaliser les choses ici en RDC me rend pessimiste dans la mesure où tout ce qui est écrit comme des lois, des ordonnances, des lois qui sont juridiques, bon, souffre d'application, totalement d'application. À ce qui concerne l'installation des dépôts de vente des produits pétroliers, par exemple ici à Kananga, nous avons enregistré deux cas des incendies. Alors, ces incendies-là ont causé des pertes de biens matériels et aussi des vies humaines. Et nous avons remarqué que la Monusco pouvait intervenir avec les voitures à eau et consorts, mais en retard. Alors, je voulais attirer votre attention sur l'article 53e de la Constitution qui dit que l'État, donc le corps humain, est un être humain, et, en quelque sorte, doit être respecté dans la mesure où nous avons aussi la loi numéro 11/009
du 9 juillet 2011 portant principe relatif à la protection de l'environnement. Nous avons les ministères de tutelle ici en province. Et nous remarquons que les encombrements des stations de vente, vous ne pouvez pas marcher 5 mètres à 10 sans que vous ayez trouvé une station de vente, ou soit les personnels, les individus qui ont passé des étagères en train de vendre ça. Alors que nous avons des grands terrains qui sont éloignés, au lieu de prendre une décision, en tant que gouvernement, au lieu de prendre une décision de déplacer, déménager ces stations de vente des produits pétroliers qui sont tellement toxiques pour la santé, et non seulement si on peut s'attendre à des incendies, mais nous rappelons encore qu'il y a des produits qui sont toxiques tels que les carburants. Lorsqu'on utilise ça,
oui.
Il y a les produits halogènes qui sortent, abrégés HAEP.
Merci Simon. D'accord, merci Simon. Oui. Merci Simon.
Alors, ces produits-là, lorsque ça sort,
oui.
À la longue ou à court ou moyen terme, on pourra commencer à souffrir les maladies telles que cardiovasculaires, cardio-respiratoires. Alors, le gouvernement a la responsabilité de déplacer ces genres de stations-là. Et la première des choses, on doit faire une étude d'impact environnemental pour savoir l'installation de cette station de vente ici impactera les milieux environnants, la population riveraine, positivement ou négativement. Alors, si c'est négativement, quelles sont les précautions à prendre en termes en guise de protection ou prévention?
Bien, merci. Alors, professeur, vous avez fait allusion à la catastrophe des Sangé, qui c'est un accident routier qui suivi d'une explosion et d'un incendie qui avait fait 242 morts. Cet accident était survenu le 2 juillet 2010 sur la route nationale 5 dans le sud Kivu. Et cet incendie avait même touché près d'une vingtaine de maisons qui étaient à côté. On va accueillir Massoud Idekindou. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la prolifération des stations-service?
Oui, par rapport à ça, à mon avis, je vois que même ici, là où je suis, il y a toujours de mauvaises constructions. Parce que la construction des stations sont liées toujours ensemble avec la population. Alors, le gouvernement ne change pas d'aller construire moins avec la population. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement central, tout celui qui fait le commerce de la construction des stations, cette construction-là doit être liée loin de la population, qui ne soit pas vis-à-vis de la population, parce qu'il y a beaucoup d'incendies qui se font moyennant cette station-là. C'est ce que j'ai préparé.
Merci beaucoup, Massoudi de Kindou. Professeur Ursil, vous avez la parole.
En réalité, l'obligation de l'étude d'impact environnemental et social permet effectivement de protéger la population contre tous les risques environnementaux. Quelle est la démarche à suivre? L'étude d'impact environnemental contribue à faire participer les publics aux décisions d'aménagement. Elles permettent aussi de réaliser un cadre préalable pour identifier les enjeux environnementaux, de définir les parties d'aménagement et les variantes pour optimiser les projets, mais permet aussi d'analyser l'état initial du site et de son environnement, évaluer les effets du projet sur l'environnement, supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables. Et l'une des plus-values de l'étude d'impact environnemental, c'est aussi de suivre les effets de l'aménagement après sa réalisation. Voilà un peu, techniquement parlant, l'apport, parce que le droit de l'environnement, c'est un droit de prévention que de privilégier l'approche curative. Les accidents des stations-service, des accidents à caractère des produits pétroliers ou hydrocarbures sont des accidents de grave ampleur. Et voilà pourquoi il y a une approche d'anticipation. Malheureusement, nous sommes dans un contexte où l'État lui-même ne met pas assez de moyens pour valoriser l'Agence congolaise de l'environnement, et cette agence souffre d'absence d'une expertise cliente parce que les gens sont mal payés et tous ceux qui sont formés comme experts sur les questions environnementales préfèrent évoluer chez les privés ou comme consultants. Et au-delà de ça, cette obligation, même avec des gens qui n'ont pas de niveau, ne sont pas respectées. Et pourtant, même dans la logique de l'étude d'impact environnemental et social, je vois que l'émission est plus focalisée sur les stations-services. Mais n'oublions pas les transports. Il y a la chaîne de production. Par où les propriétaires, les exploitants de ces stations s'approvisionnent? Et quelle est leur chaîne de production, de transport et jusqu'à l'approvisionnement? Et je vous dis, la CEP Congo répond aux normes. Pourquoi? Je vous dis par exemple que il est imposé dans le cadre des transports de produits ou de substances inflammables ou dangereuses, oui, parce que le carburant fait partie de ces substances inflammables ou dangereuses. Il y a toute une série de, une batterie de normes de sécurité qu'il faut suivre. Il faut avoir des ports appropriés pour le chargement et le déchargement. Il faut avoir des véhicules spécialisés. Mais je vous dis, ce qui se fait partout dans des grandes villes, surtout à l'est du pays, mais on est en train de transporter les carburants comme des cacahuètes dans des bidons en plastique, avec des motoguisis, sans tenir compte de la température, sans tenir compte de la sécurité. C'est dans des baleinières qu'on est en train, ces propriétaires des stations sont en train de se ravitailler. Et dans ces baleinières, il y a des personnes, il y a des biens, sans tenir compte des dispositions des températures, des contrôles. Et voilà un peu cette situation d'ingouvernabilité dont on trouve seulement l'exception avec la CEP Congo qui a l'assistance technique de la société multinationale Total et qui essaie un peu de rester dans les normes comme dépositaire.
Professeur Ursile, on peut dire qu'aujourd'hui, avec cette prolifération anarchique des stations, les normes environnementales sont bafouées au profit peut-être des normes financières. Des normes financières.
À coup sûr, je souhaiterais même que dans l'avenir, que les directeurs des agences congolaises de l'environnement soient impliqués dans ces débats qui ont un caractère citoyen pour confronter la réalité, qu'ils vous donnent des statistiques par rapport à des exploitants qui respectent les normes et qui n'en veulent pas. Et lorsqu'ils approchent le bureau d'éthique, ils disent non, 20 000 $, 15 000, 30 000 $, pour réaliser une étude, c'est trop cher, mais ils ne tiennent pas compte des dangers des vies humaines qu'ils peuvent exposer, parce qu'un accident qui peut faire 200 morts, 300 morts, 500 morts, et on peut se poser la question, est-ce que nos gouvernants au niveau local, au niveau national, provincial, à tous les niveaux, est-ce qu'ils aiment leurs citoyens? Parce que gouverner, c'est prévenir. Mais comment on ne peut pas prendre le risque de comprendre qu'il y a un grand danger qui guette la population et qu'on ne peut pas avoir une station service à côté de l'école, on ne peut pas avoir une station à côté des hôpitaux, on ne peut pas avoir une station à côté des maisons. Et je vous dis, la projection, en cas d'incendie, la projection des citernes peuvent même monter jusqu'à 50 mètres et déverser les flammes de feu avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Avec tout ce qu'il y a comme conséquence, mais on vit dans une situation d'inconscience et d'impunité. Et voilà pourquoi ces gens-là, même s'ils sont arrêtés et mis à la disposition des justices, mais le magistrat aussi, ne sont pas formés en droit de l'environnement, ils ne comprennent pas l'obligation d'étude d'impact environnemental, qui a aussi un caractère technique, et il faut former les magistrats. Il faut doter l'Agence congolaise de l'environnement d'expertise appropriée et la conférer aussi un pouvoir de police, mais aussi il faut bien payer les agents pour qu'ils ne soient pas exposés à la corruption. Parce que quelqu'un qui n'est pas payé, quelqu'un qui n'est pas mécanisé, vous voulez l'exposer pour aller faire les contrôles. Quel est le contrôle qu'il va aller faire? si c'est aussi chercher à se faire payer autrement.
Professeur, même s'il faut se faire corrompre, on va exposer les vies de plusieurs personnes, parce que vous l'avez dit, il semble que le feu, les incendies causés par les produits pétroliers se propagent à une vitesse extraordinaire, et le feu et cet incendie est souvent, on n'arrive pas à la maîtriser tout de suite.
Et voilà pourquoi l'État doit mettre en place une politique publique appropriée pour la gestion des risques. Le risque, il faut les anticiper et avoir des protocoles pour voir s'il y a un risque et comment réduire l'ampleur des risques. Et là où on estime que le risque est trop élevé, en vertu des principes de précaution, et lorsqu'on constate qu'il y a inadéquation entre le mécanisme de correction des risques et aussi l'ampleur du dégât, et là on applique le principe de précaution. Et je vous dis combien de fois le ministère et voire la division des hydrocarbures a déjà rejeté les demandes des exploitants pétroliers parce que les sites proposés ne répondent pas aux normes. Non, il n'y en a pas. Mmh. Ces services sont transformés à des caisses de résonance. Et malheureusement, c'est la population qui en pâtisse. Comme vous le savez,
professeur,
les communautés ne sont pas impliquées.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est ce manque de collaboration entre les différents services que vous avez cités qui est à la base de tous ces chaos-là?
Non, le problème n'est pas seulement de manque de collaboration, mais il faut aller un peu dans une analyse stratégique pour comprendre la portée de ce manque de collaboration. En réalité, vous êtes en face des gens qui sont mal payés ou qui touchent 50 000 francs, 60 000 francs, 80 000 francs, et aussi la tracasserie vis-à-vis de ces différents exploitants deviennent un jet d'acteurs et un jet d'intérêt. Et il y a des arènes et il y a des protecteurs. Les uns se présentent comme des protecteurs, d'autres au-delà des sous-paiements ou d'absence de traitement de la part de l'État, ils essayent de prendre conscience pour essayer de défendre l'intérêt général. Mais comme il y a tout un système, et là on tombe dans la logique du système où il y a les jeux d'acteurs et les jeux d'intérêt, et chaque acteur, chaque système crée la zone d'incertitude. Voilà un peu ce qui est tout à fait regrettable. Pourquoi? Parce que dans ces pays, il y a des gens, des services qui sont mieux payés, comme la Banque centrale, comme ceux qui travaillent à la division des finances, et ceux qui travaillent dans d'autres services que l'État juge stratégiques. Et les autres qui ne sont pas bien payés, et dans le même service de l'État, il y a des gens qui ont des primes de 30 000 francs et d'autres qui ont des primes d'un million, 2 millions, 3 millions. Et je me demande objectivement par là si ces gens peuvent avoir une conscience professionnelle. C'est qu'il faut une approche politique pour engager d'abord les gens qui répondent dans les normes et non les cousins, les membres des familles, les membres de la communauté, et aussi former, privilégier le renforcement des capacités et aussi doter ces services-là d'un cadre de concertation ou parfois des actions polycentriques pour qu'il y ait des missions conjointes, division des hydrocarbures, agence congolaise de l'environnement, coordination provinciale de l'environnement pour éviter des contradictions, des superpositions, des contrariétés, des décisions entre les différents services. Et cette collaboration ne peut être rendue possible que si l'État, qui est le garant de l'intérêt général, parvient à mettre fin à cette discrimination salariale entre ces différents services et à traiter tous les fonctionnaires et agents publics de l'État sur le même pied d'égalité, à salaire égal, au travail égal, grade égal, salaire égal.
Bien. Professeur, alors pour terminer, à part cet aspect de salaire, le paiement des salaires des fonctionnaires de l'État qui octroient les autorisations, quelles sont les autres actions à mener pour que les choses rentrent dans l'ordre, pour arrêter cette prolifération et voir comment régulariser la situation des uns et des autres?
D'un côté, il est urgent pour l'État de sensibiliser aussi les exploitants des secteurs pétroliers pour que ces derniers agissent à des bons citoyens, parce que il y a aussi une absence d'encadrement du secteur par l'État, et l'État n'est pas là seulement pour réprimer, l'État est là aussi pour encadrer et appuyer et aussi sensibiliser pour permettre aux concernés de savoir un peu l'ampleur des dangers qu'ils courent, parce que ce sont des activités à haut risque et il ne faut pas exposer la société et il ne faut pas exposer toute la communauté. Et je crois qu'il y a une approche à la fois partagée de la responsabilité sociale et environnementale des exploitants du secteur pétrolier, pour qu'ils puissent avoir une certaine éthique et de savoir que les activités qu'ils exercent sont des activités de grands risques pour la communauté, et en conséquence, ils ne peuvent pas seulement mettre la dimension de profit, mais ils doivent aussi mettre la dimension de protection de l'environnement et de la sécurité de l'environnement humain, et aussi de tous les risques, mais aussi que l'État puisse mettre en place une approche politique, parce qu'il y a plusieurs intervenants. Il y a aussi le ministère des Transports, parce qu'il faut vérifier l'approvisionnement. Vous aviez vu ce qui s'est passé au niveau des ports de Beyrouth avec les produits inflammables. Mmh. C'est que il doit y avoir une politique appropriée au niveau du ministère des Transports pour séparer les transports des substances inflammables, et au niveau des ports, qu'il y ait des ports de marchandises de droit commun et des ports des substances inflammables et des hydrocarbures. Malheureusement, en dehors de CEF Congo, à quelques évidences près, on peut citer la société Petrocam, mais seule la société CEF Congo qui répond à toutes les normes, comme dans un pays classique où des exploitants ou des dépositaires peuvent respecter les normes. C'est déjà une avancée, mais pourquoi? Parce que CEF Congo bénéficie d'une assistance technique de Total. Et là, l'État lui-même imprime son expérience. Mais s'il y a d'autres stations que l'État lui-même utilise dans le cadre des partenariats publics-privés, et ces stations ne respectent aucune norme, comment les autres exploitants peuvent accepter de respecter les normes? Et il y a une dimension pédagogique et d'exemplarité, le caractère miroir de l'État, c'est que déjà à travers ces sociétés privées qui font partie des portefeuilles de l'État, il doit y avoir une certaine exemplarité, et aussi tout ça, ça doit s'inscrire dans le cadre d'une politique publique appropriée, parce que tous ces acteurs-là qui agissent doivent agir dans le cadre d'une vision globale, avec un tableau de bord et de suivi des différentes actions, pour que réellement nos différentes communautés se sentent sécurisées, parce que à un certain moment, le risque dépassera même l'indemnisation de l'assureur.
Bien, professeur Ursile Lelo Di Makungu, je rappelle que vous êtes expert en droit de l'environnement. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci et bonne suite du temps.
Au Capi Service.
Radio Capi.
Le conseil du jour.
Thérèse Kankou, il n'est pas toujours facile de se débarrasser des étiquettes sur les pagnes. Comment les retirer?
Deux astuces simples, je dis. Placez les tissus sur une surface plane avec l'étiquette vers le haut. Retournez le côté avec l'étiquette sur la surface de travail. Pressez un fer à vapeur chaud sur l'arrière de l'étiquette et libérez la vapeur pour pouvoir ramollir la colle en arrière de l'étiquette. Retirez le fer et enlevez doucement l'étiquette. Vous pouvez aussi mouiller généreusement chaque étiquette à l'eau froide et attendez quelques minutes avant de les décoller soigneusement. La colle devrait se dissoudre à l'eau.
Benga wa kumpala, kaba kubengi, yepo le muntu. Na bomba yango nenge wana ma meilleure chemise au baby sac na ta charouge à lèvres na yo. Il y a deux ans tu crèches un bwangi na lushi na lini danso yo tobinaka Signor Likelenge na mona yo opimbala moko me battre na yo na bomba intacte tilelo belle inconnue
Gaël et son ours Bobalo à Libreville.
Tes yeux doux, cheveux longs, ton visage est d'enfant.
Aimé Wawa,
et Tikila Maï,
Eva Mouari,
traumatisme, na la la kao, na boutou,
Dadi Manima,
na la moukaka nango, jour après jour,
Assad Konde manager,
Bye Bawa,
Pona Polimo Babalouki na Katia Batombo na Bamo. Pokomo boyanga yi
Eric Kamba
va rêver considéré ma lokola inconnu
honorable ZK Gaëtan Mbumba viens en gaïja qui chicha
Sokia Yeta
Bernardo Zitapuati double zéro et même Bayo
Didier Mundu
Sparta Bako, Okilu Tulanzambe Aba policier
Kofi Pesana Moto Abuna Inga
Patrick Olungu Supreme
Papa Tao
Sinikata Yambaloyo
Eleki Liboso Salaki Otani Satomo Tolimbi Sanga
Yvonne Muleka La Supreme
C'est quoi c'est comme il procès Moumimbao Na kope nga chile si yombele yeli Sase defendre nga ipona salye lokote
Bon mouto amaninga ava
Patrick Leblanc na matadi
Kusabote nga na kemae
Magistrat Chambala
Bon mouto amaninga ava
Serge Mouboulaye top class
Kusabote nga na kemae
Elvis Ayato London
Entourage au Komo Landa Bako myote yo mabe
Claude Massamba Paris Brussels
Yebakato yo Sans imiter mes bagages sur la croix.
Trésor Mouzamba.
Et Saleli no ma belle. Mama Oyebina yo kaka kolinga kasi kolimbi sa te sen pasa.
Karim Mokonzi.
Tchatcha dile teta o et to pa makambo babwa kiwa.
Angel Tema.
Satellite o yo moto me mande ngambo. Esko monite o et si ka babwa ke to pa makambo.
Chef Nestor Akiba. Jean Salvador. Bianke Meye Maître Ben Souloubiko Roger Motingi Alexambour Jean-Lionel Galliano Zola de la Cruz
L'amour c'est comme l'enfer Mama nana comme bangi la manzo
Okonze Bazombo
Oluke la maye
Claude Oluboa Dadi ma fungo fungule
Eso songate Oluke langa chap chapile teta
Patrick Makoda Nenete Soki
Soki ayeta
Shida Ibula
Ako kutanga na kampa Paul Muto Edite Danga Sina Halito
Picas Edite Danga Les Bruxellois célèbres.
Oboto langa numéro à loketo. Oboto langa tranquille sananaï.
Mbimba Lix, ya animbimba.
Oboto langa messi rambati.
Oupe kinkela, kinkelosa. Memo Sempasi. Alpha Mokua. Fabrice Mawete. Madame Bota. Thierry Mokunae. Jise Songo. Inge Luvelela Pichu Kifaya Ben Muyamba Ose Masinda
Moïse Betanzete Nalipanga Mayebi Ma Peple Mela
Tosha Plisse Papi Seben
Pole Mutu Betanzete Bilingi Susina Mata Eko Tambangu
DJ Ken Nalwanda Ya Jean-Claude Songolay
Cécile Badio
Et oui, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service qui s'est penchée aujourd'hui sur les normes d'installation d'une station, des stations-service. Merci de nous avoir suivis. Polydor Bansunga était à la mise en onde. Tati Mapuko a assuré la réalisation. Marcel Ngombo à la coordination. Jody Daniel Keshama au micro sous la coordination de Jean-Marc Matoaki. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.